Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, je suis Moussa Oupondé.
Après sa rencontre hier avec les miniers, le chef de l'État va promulguer incessamment la nouvelle loi portant sur le code minier. Mais Joseph Kabila les a rassurés, leurs préoccupations seront prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement. Discussion depuis hier à New York sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous entendrez la chef de la mission onusienne en RDC, Leila Zerougui. Géraldine Kasongo, questeur de la CENI, est notre invitée ce matin à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'est jeudi 8 mars. Elle nous parle de la place de la femme dans tous les aspects de la vie. Bonjour à tous. Taxes et royalties sur les minerais congolais. Le chef de l'État convainc les opérateurs miniers du cuivre, cobalt et or à attendre la promulgation de la loi minière incessamment. Au terme de 8 heures des discussions hier au Palais de la Nation avec Joseph Kabila, le ministre congolais des Mines a rendu le compte. Le code minier sera promulgué et appliqué tel quel, a-t-il dit. Mais il précise également que l'application de ce code devra être accompagnée d'un règlement minier après au moins 30 jours d'examen et des traitements des préoccupations des miniers par une commission d'experts au cas par cas. On écoute le ministre des Mines, Martin Kabolulu, au micro de Jeff Ngoy.
Que fera-t-on de la fiscalité? Ça, nous attendons que le président de la République promulgue le code. Après la promulgation du code, nous allons attendre que les miniers par filière, au cas par cas, vont nous envoyer leurs préoccupations. Nous allons examiner ces préoccupations parce que nous croyons que la solution après la promulgation du code minier sera trouvée dans le sein du règlement minier. Le code est une loi, mais qui sera aidée dans l'application par le règlement minier. Nous allons prendre les dispositions du code et nous les mettrons dans le règlement minier pour être appliquées. La loi ne peut pas être contredite, parce que le code sera d'application après le règlement minier, parce qu'il y a des dispositions qui seront explicitées dans le règlement minier. 30 jours après, il n'y a plus de manœuvre pour le président de la République. La loi doit être promulguée telle qu'elle est.
Économie, encore, nous l'avons dit il y a quelques jours sur nos antennes, le gouvernement tanzanien a mis fin à sa coopération avec la RDC pour ce qui est du territoire douanier unique. Depuis le 1er mars dernier, aucune marchandise des opérateurs économiques congolais n'est acceptée sur le territoire douanier unique en Tanzanie. Il s'agit notamment du carburant, de l'huile végétale, des véhicules automoteurs et autres. Le président des commerçants congolais opérant à l'étranger indique que le territoire unique présentait plusieurs avantages. Il affirme aussi que sa suppression va engendrer plusieurs inconvénients. Edouard Soumaïli Kibakuma l'a dit à Karine Topé Ridassi.
Le territoire douanier unique était un bon système parce que l'État avait fait une réforme pour voir ce qu'il pouvait gagner et ce que l'opérateur économique pouvait aussi également gagner. Lorsque le territoire douanier unique a commencé, nous étions tous contents. On prenait la valeur de la marchandise. On vous dit, allez payer à la banque, on vous envoie une liquidation. Vous êtes sur place à Lubumbashi. Dès que les documents arrivent à Dar es Salaam, on faisait maintenant libérer la marchandise. Donc ces produits-là devraient venir directement à domicile. Le système était bon parce qu'il y avait l'argent qui entrait dans le trésor public. La suppression est que lorsque actuellement vous arrivez en Tanzanie, vous déposez l'argent auprès d'une agence quelconque. L'agence vous envoie la marchandise jusqu'au port de Kasumbalès. Maintenant, quand ça arrive, vous devez vous déplacer maintenant. Il faut nécessairement être là pour faire la vérification. Les dépenses vont s'ajouter parce que vous allez d'abord vous déplacer, vous allez vous affronter avec plusieurs services. On va vous dire, non, moi je n'ai pas encore eu ça.
Et puis, les directeurs de la Direction générale de recettes administratives et domaniales de GERAD sont depuis hier mercredi en atelier ici à Kinshasa, avec comme thème l'atteinte des assignations contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2018, un défi à relever. Ils vont pendant 4 jours essayer d'arrêter des stratégies pour répondre aux attentes du gouvernement dans les cas de la mobilisation accrue des ressources internes pour lui doter des moyens de sa politique. Innocent Linga pour les détails.
Comparée aux assignations de 2017, celles de 2018 connaissent une augmentation des 29%. D'après Madame Maggie Sambi, directrice générale de la DGRAD, la réalisation des assignations pour 2018 dans les contextes actuels caractérisés notamment par les exigences de l'amélioration du climat des affaires et des investissements ainsi que de la réforme du système fiscal congolais constitue un réel défi à relever par son institution. D'où appelle-t-elle tous les directeurs en atelier à poser un diagnostic sans complaisance des structures, des procédures et des méthodes de travail pour identifier les différents goulots d'étranglement qui empêchent une mobilisation optimale des recettes non fiscales et d'y apporter des solutions idoines. Il faut dire que pour l'année passée, la DGRAD a réalisé un taux d'exécution de 93,20% de ses assignations prévues dans la loi des finances, soit 892,737 milliards de francs congolais contre 957,857 milliards lui exigés. Performance de 84,51% par rapport à l'année 2016 qui lui a valu les éloges du ministre des Finances Henri Yave qui a ouvert cet atelier.
Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les discussions en rapport avec le renouvellement du mandat de la MONUSCO ont débuté hier mercredi à New York avec notamment la présentation du rapport de Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Écoutez un extrait de l'intervention de la chef de la MONUSCO. Ces propos sont recueillis par nos confrères de la radio des Nations Unies à New York.
Je tiens tout d'abord à souligner les progrès notables accomplis ces dernières semaines dans les préparatifs des élections présidentielles et législatives, notamment la fin du processus d'enregistrement des électeurs à travers le pays, la promulgation de la loi électorale révisée et l'adoption du budget électoral. Je souhaite rendre hommage aujourd'hui à cette détermination du peuple congolais à participer au processus politique et à forger l'avenir de son pays, car ce sont cette détermination et cet engagement qui pourraient aider à la réalisation des objectifs fixés par l'accord de la Saint-Sylvestre.
Pendant ce temps, en Ituri, au moins 6 morts, plusieurs personnes blessées et des cases incendiées. Tel est le bilan provisoire de plusieurs attaques des hommes munis d'armes blanches et à feu dans les collectivités de Mambisa et de Walendu Tati, en territoire de Djougou. Ça s'est passé entre mardi et hier mercredi, dans près de 10 villages, selon des témoins. Jean-Claude Doki explique dans ce reportage.
L'attaque la plus récente a eu lieu mercredi dans l'avant-midi à Baïmani, une localité située à près de 9 km de Nizi Centre, en chefferie de Mambisa. Nous affrontons aux ennemis qui sont munis d'armes à feu du type AK-47 comme nous a confié un officier sur place au fond. Ce sont des affrontements violents qui ont occasionné le déplacement de plusieurs familles. Lundi dernier, c'était quasiment le même décor. Le chef de chefferie rapporte que 5 villages du groupement Kekba ont été incendiés. Il s'agit de Toulou, Nzali, Moussa, Kaka, Tout est Vengaï. Ailleurs, dans le groupement Loga, en secteur de Walendu Tati, le chef de ce groupement affirme que des hommes armés ont tué 4 personnes, pillé plusieurs maisons avant de les incendier dans 6 différents villages. 4 autres morts et 2 blessés ont été rapportés à Malili, dans le groupement Lade Djo. L'administrateur du territoire de Djougou dit attendre les rapports de ses services pour faire plus d'éclairage. Toutes nos tentatives pour joindre le porte-parole des FARDC en Ituri n'ont pas abouti. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Okapi.
Célébration de la journée des droits de la femme, c'est ce jeudi 8 mars. Le thème national retenu cette année est « Investir dans la force productrice de la femme rurale », priorité de la RDC. ONU Femmes reconnaît que des progrès, notamment dans l'autonomisation de la femme rurale en RDC, ont été réalisés, mais que des efforts restent à fournir. Pour Madame Sosek, représentante de ONU Femmes en RDC, il faut positiver le travail de la femme congolaise. À Kinshasa, on l'appelle Mère Courage, Maman Bipupula. C'est cette femme qui se réveille très tôt le matin pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Cette femme, méconnue du grand public, a attiré l'attention d'André Okalie Moudaba, homme de lettres et des cultures, professeur d'art dramatique à l'Institut National des Arts et auteur de plusieurs ouvrages. Le professeur Yoka dédie à cette femme-là son tout dernier livre intitulé « Bisonjibia Bakaji ». Entendez, l'arme des femmes. Il rend hommage à cette femme presque oubliée dans les grands rendez-vous du monde, et pourtant c'est elle qui joue un rôle non négligeable pour la survie de la famille. André Oka parle de la femme porteuse de la vie.
La femme a le poids de la vie. La femme a le poids de l'humanité. En même temps, la femme est l'espoir, parce que la femme, c'est l'avenir de l'homme, comme disait Malraux. Je prends comme exemple les femmes qui ne sont pas des femmes visibles, mais c'est souvent les héroïnes de l'ombre. Et donc, je pense qu'il est temps de rendre femme à ces femmes-là. Je ne parle pas des femmes en vue. Vous savez, il m'arrive d'être au grand carrefour de la ville de Kinshasa. Rond-point Gaba, rond-point Victoire, rond-point Kitambo, etc. Regardez le regard des femmes. Je fais cette tautologie exprès. Regardez les femmes dans les yeux. C'est tout un discours que ces femmes vous tiennent. Ces femmes tiennent la vie. C'est elles qui nous réveillent le matin. Parce qu'elles vont très tôt pour préparer la journée. Pour qu'aucun la journée, comme on dit. Je les regarde dans les yeux. Comment leur regard est profond, interrogateur, interpellateur, douloureux. Mais regard plein d'espoir. C'est ça qui m'intéresse.
Et puis l'Union des femmes de Kinshasa place cette journée dédiée à la femme sous le signe du deuil, en référence à la souffrance qu'endurent les femmes de la RDC dans les conflits armés qui secouent notamment l'est du pays. Cette cruauté à l'endroit de la femme congolaise, Hélène Dombesita, dit ne pas trouver de mots pour l'expliquer. Et pour elle, cette journée ne prête pas aux réjouissances face aux droits de la femme qui sont violés en République démocratique du Congo. Hélène Dombesita, présidente de l'Union des femmes de Kinshasa, députée nationale honoraire et vice-présidente de la Convention des démocrates chrétiens, est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Je pense que la femme congolaise doit être en deuil au vu de ce qui se passe. Nous avons acquis des droits, par exemple le droit de manifester pacifiquement. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui ? À l'Est, on tue les enfants, on tue les femmes. Ce sont des droits qui font partie des droits de la femme, des droits humains. Parce qu'on ne dit pas seulement la loi sur la parité, c'est un droit pour la femme. Non, tous les droits concernent aussi la femme. Les droits humains, c'est autant pour la femme que l'homme. Donc cette année, nous n'allons pas fêter, nous serons en deuil. Vous me voyez en deuil à partir d'aujourd'hui, je suis habillée de noir pour manifester notre révolte concernant la situation qui prévaut aujourd'hui. Dernièrement, on n'a pas tué que les hommes, on a tué aussi les femmes, à bout portant, les femmes qui n'ont pas d'armes, les femmes qui vont au champ, les femmes qui travaillent pour nourrir leur famille. On les égorge avec quelle cruauté ? Pareille cruauté envers son prochain. C'est comme si on le faisait sciemment. Les gens sont devenus des bêtes. Même les animaux ne peuvent pas faire ce que les hommes font aujourd'hui.
Julienne Lusengui, lauréate du prix de droit de la femme 2018 à Genève, s'intéresse elle aussi à cette femme qui paye le lourd tribut dans les conflits qui ensanglantent certaines parties de la RDC. Elle adresse particulièrement un message de paix à la femme de l'Ituri, lui demandant de garder espoir et d'influencer la jeunesse sur la voie de la paix. Julienne Lusengui, présidente de la Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, Sophie Padi, s'est ainsi exprimée hier à Kinshasa au cours d'un échange avec les médias en marge de la journée internationale de droits de la femme. Elle est au micro de Marcel Mayeux-Fomba.
Je m'adresse à mes sœurs de l'Ituri pour dire de ne pas baisser les bras, de continuer la lutte, de continuer à se battre pour la paix et la concorde entre les communautés. Je les félicite et je les encourage à sensibiliser les jeunes pour la paix, à sensibiliser tous les leaders pour la paix. Je suis de près ce qui se passe et je suis les interventions de tout et chacun, de nos leaders, et je vois qu'il y a une grande volonté de travailler pour la paix. Jeunes, regardez votre avenir, travaillez pour la paix, ne vous laissez pas instrumentaliser par les gens qui abusent de votre jeunesse. Au lieu d'aller de l'avant, il vous faut reculer, ils détruisent votre avenir. Maintenez la concorde entre vous, travaillons pour la paix. Nous sommes pour la paix, l'Ituri veut la paix pour son développement.
Actualité, Afrique Monde.
L'opposition togolaise de retour d'Accra, où les représentants de la coalition sont allés rencontrer le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le facilitateur demande à l'opposition de ne pas manifester la semaine prochaine comme elle l'a prévu de le faire pour protester contre le fait que le gouvernement poursuit le processus électoral alors qu'elle en demande la suspension. En Sierra Leone, les observateurs saluent un scrutin sans incident. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et le prochain président de la République. Marqué par une très forte affluence dans les bureaux de vote, la journée s'est déroulée sans incident majeur à la satisfaction des observateurs internationaux.